Europe 1, Philippe Googler.
Nous sommes en Corée du Sud, avec maintenant Didier Ferrat du guide Lonely Planet, qui nous a amené des instruments. Ouais.
Un peu de silence, s'il vous plaît.
Oh, l'autre!
Qu'est-ce que c'est que
parce
ça?
Parce que c'est le moktak, c'est un instrument en bois, une percussion qui est utilisée par les moines dans les monastères dont je vais vous parler.
Et il le joue comme vous?
Sûrement mieux, mais moi j'essaie juste de frapper, de faire un petit peu taire Nathalie, parce que c'est pas possible, elle est trop bavarde.
Ah bon? Il y a un différent entre vous?
Non mais c'est ma fête, c'est la fête Nathalie. Donc,
mais non, c'est la transition, parce que de la K-pop au monastère... C'est pas simple, hein. C'est pas du tout la même ambiance.
Mais oui, vous êtes plus ambiance zen, ambiance...
Oui, ambiance zen, mais parce que c'est très important, la tradition bouddhique est très importante, même si aujourd'hui en Corée, il y a qu'un tiers de la population qui est bouddhiste. Mais historiquement, et au niveau des visites, de ce qu'on peut voir en Corée, c'est absolument fondamental. Pourquoi ? Parce que ce sont des temples bouddhiques qui sont installés dans les montagnes, oui. Et ça forme des taches de couleurs dans un paysage brumeux, absolument superbe. Et pourquoi dans les montagnes? Bah, tout simplement, comme l'a expliqué notre invité, le confucéanisme a remplacé les bouddhistes au XIVe siècle et donc les moines ont été chassés. Donc ils ont été dans la montagne. Mmh. Et aujourd'hui, ce sont les plus beaux temples qu'on peut voir en Asie dans des paysages totalement spectaculaires. D'ailleurs, je vous conseille d'y aller plutôt au printemps, au moment de la floraison des cerisiers et des azalées entre mai et juin, parce que là, c'est vraiment somptueux.
Ouais. Alors il y a de l'art parfois un peu surprenant quand même dans ces temples.
Tout à fait. Alors ces temples, ils sont composés de pavillons, de divers bâtiments en fait qu'il faut savoir un petit peu décrypter. Puis il y a la spécificité des temples coréens, c'est qu'il y a beaucoup d'allégories et de peintures sur les murs extérieurs qui sont parfois totalement étranges. Alors par exemple, on voit très souvent peint un homme à la tête coupée avec un jet d'eau qui sort de son cou. C'est très étrange. Oui, alors on se demande, mais qu'est-ce que ça fait là? Dans pratiquement tous les temples, vous avez ça. Et ben, c'est une allégorie assez importante, en fait, de la conversion de la Corée au bouddhisme au IVe siècle. Et pourquoi? C'est la petite histoire. En fait, le neveu du roi était bouddhiste, mais toute la cour et toute la population étaient contre les bouddhistes, qu'ils considéraient vraiment comme des gens païens et qui n'étaient pas conformes à la religion de l'époque. Or, le neveu s'est dit, écoutez, puisque vous allez me couper la tête, on coupait la tête à tous les bouddhistes de l'époque. Quand mon sang jaillira, vous verrez, ça ne sera pas du rouge, mais ça sera du blanc qui jaillira et ça sera la preuve que Bouddha existe. Ça n'a pas loupé, on lui a coupé la tête, hop, le jet blanc, et là, tout le royaume s'est converti au bouddhisme.
Ah.
Et oui, c'est ce qu'on peut voir sur les murs de ces monastères.
Et qu'est-ce que c'était ce blanc? On a su?
Ce blanc, non, c'est le sang qui est blanc.
D'accord.
C'est le sang qui est blanc, non, et non pas rouge. Il y a une pluie de fleurs qui est tombée en même temps.
Ah.
Incroyable, non?
D'accord, très bien. Ah oui, c'est drôle cette histoire.
Mais oui, il y a plein d'allégories comme ça sur les murs des monastères. Mais ces monastères, on peut y dormir.
Oui, et d'ailleurs, c'est une expérience, ça.
C'est une expérience incroyable. Je ne peux que vous recommander de le faire. C'est une ambiance hors du commun. Alors, Philippe, vous n'avez pas de problème de dos, parce que je sais que vous êtes un peu fragile.
Tous les jours, il fait mon check-up santé.
Oui, oui,
je
tiens à ce que vous soyez
un généraliste.
Voilà. Parce que, bon, c'est sûr que les conditions sont quand même un peu spartiates. Il faut quand même pas se mentir, hein. On dort sur des petits matelas de 3 cm. On se lève à 3 heures du matin. On dîne végétarien, bien sûr, à 17 heures. Donc, c'est vraiment spartiate. Mais on assiste à des spectacles absolument incroyables. Alors, des spectacles, ce sont pas des spectacles, ce sont de véritables cérémonies. Et donc, par exemple, au coucher du soleil, il y a la cérémonie musicale du soir. Vous imaginez, dans un paysage somptueux, comme je vous l'ai dit, il y a 4-5 moines drapés d'un tissu orange qui semblent venir de absolument nulle part. Ils prennent place sous un pavillon musical où il y a des instruments de musique et chaque instrument a pour mission de diffuser la parole de Bouddha dans l'univers. Alors vous avez le tambour pour les êtres vivants de la terre, vous avez la carpe en bois pour le monde marin, vous avez le nuage de bronze pour les airs et la cloche pour les âmes pécheresses, Nathalie.
Oui, bah, non mais j'attendais.
C'est votre fête, c'est la Saint-Nathalie, c'est votre fête.
Ah là là, je suis ravie.
C'est comme ça.
Alors oui, les temples, c'est vraiment quelque chose d'important quand on visite la Corée. On ne peut pas y échapper. Il y a un autre endroit en Corée qui n'a absolument rien à voir avec les temples et qu'on ne pense peut-être pas
c'est
aller voir.
De nuit.
Non, pas du tout. Vous savez qu'il y a la Corée du Sud et qu'il y a la Corée du Nord. Et que l'ambiance n'est pas tout à fait la même au nord de la frontière. Et C'est une déchirure pour ce pays, hein, la frontière. C'est un pays qui a été divisé en deux. Il y a des familles entières qui ont été séparées. Et c'est toujours une blessure profonde. Et la frontière entre les deux s'appelle la DMZ. C'est la zone démilitarisée. Et en fait, c'est une des zones les plus militarisées au monde.
Ouais.
C'est un espace, un no man's land assez flippant. Mais que beaucoup de Coréens connaissent parce qu'ils vont visiter cet endroit. Ils vont le voir, ils vont s'y recueillir souvent en pensant aux leurs qui sont restés de l'autre côté et dont ils n'ont pas de nouvelles depuis des décennies. C'est une histoire incroyable. Et ils vont sur les hauteurs de la DMZ, et là-haut, il y a des miradors, des longues vues, et on essaie de voir, alors c'est très symbolique, parce qu'évidemment, on ne voit pas très très loin, mais quand même, on aperçoit la Corée du Nord, et il y a plein de gens qui vont là-bas regarder. Et la DMZ se visite. On visite aussi les tunnels que les Coréens du Nord ont creusés sous la DMZ pour essayer d'envoyer des soldats en Corée du Sud. Et bon, ça n'a pas marché, mais ces tunnels se visitent aussi. Et si on veut comprendre l'histoire de la Corée et l'histoire de ce mur qui est une des dernières traces de la guerre froide. La dernière trace physique, c'est un moment assez saisissant. Il y avait d'autres choses que vous vouliez nous raconter.
Il y a plein de choses parce que les Coréens ne sont pas toujours aussi zen que dans les monastères. Ils ont besoin aussi d'oublier cette histoire. Donc des fois, ils se défoulent. Ils se défoulent lors de certains festivals. Alors je pense au festival le plus connu en Corée, c'est la fête de la boue. Vous imaginez ? Alors au départ, ça part d'un bon sentiment. Hein. Dans les années 80, on décide de faire un festival autour des vertus thérapeutiques de la boue. Mais ça a totalement dégénéré. Aujourd'hui, c'est plus d'un million de Coréens et parfois d'étrangers qui viennent et qui se rendent dans ce lieu, c'est une plage au sud de Séoul, et pendant plusieurs jours, on fait la fête dans la boue, il y a des toboggans qui vous poussent dans la boue, on se jette de la boue, on danse,
il y a tous les âges,
il y a de la techno, il y a des rêves parties, ça dure 3 jours de folie, de dingue.
Ça vous plairait ça, Nathalie?
Il y a tous les âges et c'est une fête de techno, je suis pas sûr que moi je vais y aller avec ma mère par exemple.
Non, c'est peut-être pas une bonne idée.
Alors, c'est pas pour la boue, hein, c'est pour la musique.
Si vous y allez en hiver, il y a d'autres festivités qui vous attendent. Il y a notamment, un festival super connu en Corée, c'est la pêche sous la glace.
Ah oui.
Ouais, voilà.
Ça, j'ai fait ça aussi. C'est marrant, ça.
C'est une rivière qui se trouve à peu près à une centaine de kilomètres au nord de Séoul. Ça devient une espèce de pisciculture géante, c'est-à-dire que le fleuve, la rivière est glacée, on creuse des trous dedans, et c'est à celui qui pêchera le plus de truites qui aura gagné. Donc,
ce que vous dites pas, c'est que c'est un truc absolument incroyable. C'est une rivière entièrement gelée, et vous avez des milliers de personnes qui ont chacun creusé leur petit trou.
Oui, avec la
petite chignole.
Oui.
Et donc, vous avez des milliers de trous dans la glace.
Exactement.
Et chaque fois, une personne devant qui pêche, et souvent on répartit la famille, c'est-à-dire que vous avez la mère devant un trou, le père devant un autre trou et les fistons un peu plus loin.
Une fois que vous avez pêché votre truite, il y a des petits fours individuels, vous mettez votre truite et vous la dégustez.
Merci beaucoup Didier pour toutes ces bonnes infos sur la Corée du Sud.